France Musique.
L'heure d'un nouveau point sur l'actualité avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. La crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie sera évoquée aujourd'hui à New York à l'occasion d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis plusieurs jours maintenant, Varsovie et Bruxelles accusent le régime d'Alexandre Loukachenko de pousser des milliers de demandeurs d'asile à franchir la frontière pour gagner l'Union européenne. À Sokółka, en Pologne, c'est un reportage sur place de Marie-Pierre Véraud avec les moyens techniques d'Alexandre.
C'est une situation inédite à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. 400 km de barbelés à lame rasoir, plusieurs milliers de soldats et gardes-frontières, l'arme au pied, et depuis début septembre, un état d'urgence qui crée une zone de non-droit. Impossible d'approcher à moins de 3 km de la frontière. Aucun journaliste, aucun humanitaire ne peut aller à la rencontre des milliers de réfugiés poussés vers l'Union européenne et témoigner de la situation. C'est une crise migratoire. Mais les migrants demeurent invisibles. Seuls ceux qui parviennent à franchir les barbelés et l'épaisse forêt peuvent espérer trouver de l'aide auprès des ONG, mais sans aucune garantie. Anna Milewska de la Fondation Odzaleń.
Les gens doivent savoir que les gardes frontières peuvent les emmener au poste ou bien les repousser en Biélorussie. Et nous ne pouvons pas leur donner la garantie qu'ils pourront déposer une demande d'asile ici en Pologne. C'est complètement erratique. La même semaine, nous avons eu une famille qui a été emmenée par les gardes frontières et qui a pu faire une demande d'asile, et une autre qui a été renvoyée vers la Biélorussie. C'était une famille avec des enfants. Il faut savoir que la loi, maintenant en Pologne, permet de renvoyer même des enfants à la frontière.
Combien ont déjà succombé ? Plusieurs centaines, affirment les médecins qui suivent ici la situation. Loin des yeux, mais aux portes de l'Union européenne, et l'hiver ne fait que commencer. Oubliez la politique, martèlent les associations. C'est une crise humanitaire à laquelle il faut apporter une réponse humanitaire.
Hier, la chancelière allemande Angela Merkel a demandé au président russe Vladimir Poutine d'user de son influence sur le régime d'Alexandre Loukachenko pour mettre fin à une instrumentalisation inhumaine, dit-elle, des migrants. La patronne de la commission de Bruxelles, Ursula von der Leyen, plaide quant à elle pour de nouvelles sanctions contre Minsk, et ce, dès la semaine prochaine. Deux jours après le retour sur Terre de Thomas Pesquet et de ses coéquipiers, quatre astronautes ont décollé ce matin de Floride pour rejoindre la Station Spatiale Internationale, trois Américains et un Allemand. Ils resteront à leur tour en orbite pendant 6 mois pour de nouvelles expériences scientifiques et quelques sorties dans l'espace afin de poursuivre l'installation des nouveaux panneaux solaires de l'ISS. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, vient de vendre plus de 900 000 actions de Tesla, l'entreprise qui fabrique des voitures électriques. Cela représente environ 10% du capital et quelques 5 milliards de dollars, contrairement à ce qu'a voulu faire croire Elon Musk ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Cette opération financière a été préparée il y a maintenant plusieurs semaines. 7h passée de 3 minutes sur France Musique, dans la foulée de votre revue de presse, Jean-Baptiste Urbain focus ce matin à 7h50 sur Le Souffle des Cordes, le nouvel album du contrebassiste Renaud Garcia Fons. C'est la bulle de jazz de cette matinale signée Marjolaine Portier-Kaltenbach.
Il a plus d'une corde à son arc. Olivier Denré revient à 8h pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Mozart. Le final du 17e concerto pour piano, c'était l'orchestre de chambre d'Europe dirigé par Claudio Abbado et en soliste Maria João Pires. La grande pianiste portugaise qui est en France ces jours-ci, samedi, c'est Mozart qu'elle joue avec l'Orchestre National de Lyon dirigé par Nicolai Schepp-Snyder à l'Auditorium de Lyon. Donc elle jouera aussi d'ailleurs la sonate Le Printemps de Beethoven avec le chef violoniste qui troquera sa baguette contre son archet et son instrument. Un programme que la pianiste et l'orchestre donneront également mardi à la Philharmonie de Paris. Il est 7h42, l'heure d'ouvrir les quelques journaux qui paraissent aujourd'hui.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Chifra à l'honneur dans le Figaro ce matin. Le quotidien consacre 2 pages au pianiste dont on vient de célébrer le centenaire de la naissance. Dans son article, Thierry Lériteau bat en brèche les clichés qui collent à la peau du musicien hongrois mort en 1994. Avec cette image d'un pianiste phénomène, icône de la virtuosité digitale et de la vitesse d'exécution. Une étiquette à contresens de sa pensée musicale et qu'on lui a collé presque immédiatement après son arrivée en France. C'est ce que note dans le Figaro le pianiste Pascal Amoyel, qui fut l'élève de Georges Chifra. Chez lui, ajoute-t-il, c'est le sens qui faisait le son et non l'inverse. Un sentiment partagé par le producteur Paul Arnaud Péjouan, qui témoigne aussi dans le journal. Il se souvient que Chifra était venu au festival Piano Jacobin à Toulouse, 6 ans avant sa mort. Un concert inoubliable, se souvient-il, d'abord par l'affluence qu'avait suscité ce récital. Et puis, il y avait encore de la queue à l'extérieur, des gens qui criaient de les laisser entrer alors qu'il ne faisait pas plus de 13 degrés dans le cloître. Chifra lui-même avait demandé à garder son pullover par-dessus son smoking, mais sa prestation fut tellement extraordinaire avec une telle générosité de l'expression que tout le monde a très vite oublié le froid. Chifra sur le bout des doigts, un article à lire ce matin dans le Figaro. Et puis, le mensuel Diapason en ligne nous raconte, lui, cette mésaventure arrivée il y a quelques jours au violoniste Red Cheng. C'était au beau milieu d'un concert, le concerto de Tchaïkovski. Ça se passe aux États-Unis. Ce soir-là, l'orchestre de Seattle, dirigé par Ludovic Morlo, attaque le célèbre concerto quand les spectateurs entendent un clac, une corde du Stradivarius du violoniste qui vient de casser. Red Cheng se tourne alors vers le chef, raconte Diapason, puis vers le premier violon avec lequel il échange son instrument comme c'est l'usage en pareil cas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soliste, profitant d'un passage où il ne joue pas, se dirige vers un autre violoniste auquel il confie une corde neuve qu'il avait gardée dans la poche de son costume. Ce violoniste va donc effectuer sans tarder la réparation sur scène et Red Cheng reprendra son Stradivarius pour les 2 derniers mouvements du concerto. Tout est bien qui finit bien. Allez, sans corde cassée, voici le violoniste australien dans ce duo de Stravinsky. Thank you. La musique du duo concertant d'Igor Stravinsky, c'était Recheng et Timothy Young. Il est 7h49. Et comme tous les jeudis sur France Musique, c'est l'heure de la chronique de Marjolaine Portier-Kaltenbach. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Bonjour Marjolaine. Vous nous parlez ce matin du virtuose de la contrebasse Renaud Garcia-Fons. Son nouvel album sort demain et il s'intitule « Le souffle des cordes ».
C'est ça Jean-Baptiste. Imaginez un quatuor à cordes, tout ce qu'il y a de plus classique. Deux violons, un alto et un violoncelle. Deux violons, un alto et un violoncelle qui rencontreraient au détour d'un chemin une contrebasse. Et imaginez maintenant que ce quintet fraîchement constitué croise soudain des instruments à cordes traditionnels. Un kemanché, instrument à cordes frottées, un canoun, instrument à cordes pincées de la famille des sitars et une guitare flamenca. Cette rencontre improbable entre des cordes du monde entier a été pensée par Renaud Garcia-Fons. Renaud Garcia-Fons compose, il est aussi contrebassiste et son instrument est unique en son genre puisqu'il l'a doté d'une cinquième corde. Grâce à cet ajout, il explore de nouvelles techniques, de nouvelles couleurs et il fait de sa contrebasse un instrument soliste à part entière. Avec sa contrebasse, Renaud Garcia-Fons navigue depuis toujours entre les courants musicaux, le jazz, le flamenco, les musiques folkloriques, ce qui lui a permis de croiser de nombreux instruments à cordes traditionnels. Et puis, en tant que compositeur, il a été amené à écrire un concerto et plusieurs quatuors pour des instruments à cordes classiques. De fil en aiguille, lui est donc venue cette idée « Je vais rassembler les cordes que j'aime ». Cela faisait 17 ans que Renaud Garcia-Fons n'avait pas composé pour une grande formation, mais ses cordes qu'il aime tant lui ont inspiré un tout nouveau répertoire. Un répertoire qui, comme lui, ignore tout des frontières, puisque d'un morceau à l'autre, on survole l'Afrique, l'Espagne, puis l'Extrême-Orient. En écrivant la musique du disque Le souffle des cordes, Renaud Garcia-Fons a non seulement respecté mais aussi mis en valeur les spécificités des différents instruments. Résultat, chaque culture brille de mille feux. Au kemanché et au canoun, Derya Turkan et Serkan Halili font resplendir les musiques ottomanes. À la guitare, l'espagnol Kiko Ruiz apporte toute la ferveur du flamenco. Le quatuor classique issu de l'Orchestre Philharmonique de Radio France tempère leurs ardeurs avec toute la rigueur de la musique de chambre, tandis que Renaud Garcia-Fons, lui, relie les notes, les musiciens et les folklores à grand renfort d'archet.
On adore Le souffle des cordes, le nouvel album de Renaud Garcia-Fons. Ne cherchez pas aujourd'hui, ça paraît demain.
Exactement, demain, oui.
À la semaine prochaine, Marjolaine.
Bonne journée, Jean-Baptiste. Bonjour, bonne journée à tous.
Le contrebassiste qui donnera d'ailleurs ce programme en concert le mois prochain, le 11 décembre, au Théâtre Paul Éluard, au Festival Jazz au Fil de l'Oise, et puis un peu plus tard à Paris, le 29 janvier, au Pan Piper. Réveil royal pour vous sur France Musique, un extrait de Richard Cœur de Lion de Grétry avec le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, un opéra comique français du XVIIIe siècle qui fut le plus connu, le plus joué au siècle suivant avant de disparaître des plateaux pendant des décennies. L'opéra royal de Versailles l'a ressuscité, une production il y a 2 ans qui a donné lieu à ce disque dont on écoutait un extrait et qui est reprise cette production à l'opéra de Versailles, c'est à partir de ce soir. Et jusqu'à dimanche. Il est 7h55.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Ce qui veut dire que c'est l'heure de jouer sur francemusique.fr. C'est gratuit, c'est sur l'onglet Contactez-nous de l'émission Musique Matin, vos coordonnées et la bonne réponse pour gagner aujourd'hui le disque Contemporary d'Adélaïde Ferrière, paru l'an dernier. C'est la voix mystère, on a puisé dans nos archives. Qui est cette voix mystère? Écoutez bien.
Il m'est arrivé aux Français d'avoir, lorsque je jouais Ondine, quelqu'un qui, du poulailler, avait crié plus fort, alors que je sais qu'on, comment dire, la mesure vocale est à l'idéal et que, et je sais aussi, je savais, disons, à l'époque, quand je projetais et quand je projetais moi, même si je n'avais pas évidemment l'expérience que j'ai acquise. Et donc, j'ai levé la tête et je me suis entendue dire, et puis quoi encore? Et je me suis dit, non, ça, c'est pas vraiment
autorisé
dans les répliques d'Ondine. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est, je vais être virée. Je suis sortie de scène et j'ai dû, pour sauver ma peau en tant que pensionnaire, faire semblant de m'évanouir.
Qui est cette comédienne qui a été pensionnaire à la Comédie Française? Grande comédienne, est-ce qu'on donne un indice ou pas? Oui, donc elle a les yeux bleus. Allez, là hier c'était la voix de Céline Dion qu'il fallait découvrir. La bonne réponse dans une heure. Elles s'amusent comme des folles. Sol et Pat sur leur dernier disque. Patricia Kopaczynskaya au violon. Sol Gabetta au violoncelle. Un disque dont elle jouait d'ailleurs la semaine dernière ici à l'auditorium de la radio, de la maison de la radio et de la musique. Le programme, le concert est à écouter sur francemusique.fr. Sol Gabetta en résidence cette saison à Radio France. Ce soir, France Musique vous propose un concert qu'elle a donné en septembre en compagnie de quelques musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France autour de Rossini. C'est à 20h avec Benjamin François. À tout de suite.
Bonjour, c'est Philippe Cassard. Samedi, je vous présenterai Portrait de famille depuis le Conservatoire à rayonnement régional de Marseille. Hommage sera rendu à Pierre Barbizet, son légendaire directeur, et quelques-uns de ses étudiants de l'époque, Hélène Grimaud, Jean-Yves Thibaudet, Frédéric Aguessi ou Joël Rigal. Portrait de famille en direct de Marseille, c'est samedi à 14h sur France Musique et francemusique.fr.
En partenariat avec la Provence.
Les études montrent que la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel ? 6 mois après votre dernière injection si vous avez 65 ans et plus, vous avez une maladie grave, vous êtes un professionnel de santé éligible. Vous êtes aussi concerné si vous êtes dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. Vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen ? Vous pouvez faire votre dose de rappel dès 4 semaines après votre injection. Enfin, si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez faire votre rappel à partir de 3 mois après votre dernière injection sur avis médical. N'attendez pas. Faites votre dose de rappel chez un professionnel de santé près de chez vous ou prenez rendez-vous sur www.sante.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Jeudi 11 novembre, un temps encore très instable avec des pluies soutenues attendues sur le pourtour de la Méditerranée. Partout ailleurs, ce sera plutôt clément, avec même de belles percées du soleil. Les températures, si ça est assez bas ce matin, 1 degré à Metz, 2 à Paris, 5 à La Rochelle, 15 à Marseille. Ça remonte dans l'après-midi de 11 à Lille jusqu'à 19 à Nice. Vous écoutez France Musique, merci, il est 8h. Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un brouillon diffusé par la présidence britannique, l'ébauche d'une déclaration finale à 48 heures maintenant de la clôture officielle de la COP26. En Écosse, on n'attend pas la signature d'un accord, plutôt la réaffirmation de quelques grands principes, notamment celui de garder en vie l'engagement de Paris de contenir autant que possible la hausse des températures d'ici la fin du siècle. Le texte qui circule depuis hier devrait donc encore évoluer d'ici demain, il faut dire, Véronique Rebérotte, qu'en l'état, il ne satisfait pas les ONG et certains États les plus exposés au réchauffement climatique.
Il y a ceux pour qui ce premier jet ne va nettement pas assez loin sur les aides financières. Le texte, je cite, relève avec regret l'incapacité des pays riches à tenir leurs promesses financières, les fameux 100 milliards de dollars par an promis dès 2020, mais repoussés à 2023. Inacceptable, selon Mohamed Adou, c'est le directeur de PowerShift Africa, une ONG kenyane.
Il n'y a pas de solidarité, pas assez de coopération internationale dans l'avancement actuel du texte. Les prochains jours vont être les jours les plus importants à Glasgow pour tenter de renforcer la déclaration finale, pour que nous puissions quitter Glasgow sur un succès.
Le texte provisoire comporte malgré tout quelques formulations importantes, notamment, pour la première fois, la question de la sortie des combustibles fossiles y est évoquée. Lola Vallejo de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Cette proposition de texte est la première qui parle d'une sortie explicite du charbon et appelle à la fin des subventions aux énergies fossiles. C'est aussi un texte qui essaye de consacrer l'importance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré de façon encore plus explicite que ce qu'il y a dans l'accord de Paris. Et il invite les pays à soumettre de nouvelles contributions pour réduire les émissions à 2030 et faire le bilan de façon annuelle pour qu'on sache si on se rapproche de cet objectif de 1,5.
L'accord de Paris prévoit que les pays rehaussent leurs ambitions seulement tous les 5 ans.
Conséquence inquiétante du réchauffement climatique, ce nouveau raz-de-marée au Ghana, le troisième de l'année, est le plus violent à avoir touché les côtes de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis dimanche dernier. Plusieurs milliers d'habitants ont dû abandonner leur logement dans la région de la Volta. Sur place, les autorités ont lancé en 2019 des travaux pour créer des digues de protection, un nouveau chantier doit d'ailleurs démarrer très bientôt, précise le gouvernement ghanéen. Au Bénin, les trésors royaux restitués par la France ont rejoint hier le palais présidentiel de Cotonou. Retransmise à la télévision, une cérémonie solennelle a marqué leur retour au pays. Ces œuvres d'art ont été volées par les troupes coloniales françaises en 1892.
La France commémore, elle, aujourd'hui la fin de la Première Guerre mondiale avec deux cérémonies successives. La première à l'Arc de Triomphe, la seconde cet après-midi, Olivier Denré, au Mont-Valérien.
Le président de la République accompagnera en effet le cercueil du dernier compagnon de la libération dans la crypte du mémorial de la France combattante, comme l'avait souhaité le général de Gaulle. C'est là que reposera donc Hubert Germain, décédé le mois dernier à l'âge de 101 ans. Franck Cognard.
Dans la crypte, au milieu des 16 corps qui reposent déjà, il y avait une place vide, celle du caveau numéro 9. Ce caveau, celui d'Hubert Germain aujourd'hui, était réservé pour le dernier des 1038 compagnons de la libération, ce qu'Hubert Germain est à jamais désormais. Autour de lui reposent 14 hommes et 2 femmes, symboles de celles et ceux qui ont combattu, résistantes, déportés, matelots, tirailleurs sénégalais, tunisiens, marocains, simples soldats ou officiers. Toutes et tous sont entrés ici par une porte en bronze au pied d'une monumentale croix de Lorraine, elle-même située au milieu d'un mur en grès rose long de 150 mètres. Le Mont Valérien, c'est aussi la clairière des fusillés, le souvenir d'un millier d'hommes et de femmes tués par les nazis. Et puis plus haut, en haut de la colline, il y a le fort où sont installés à la fois le régiment qui assure la sécurité des transmissions des sites sensibles en Ile-de-France et la dernière unité de pigeons voyageurs militaires en Europe.
Un nouveau directeur à Sciences Po Paris, il s'agit de Mathias Vichera. Il a travaillé à la mairie de Paris, à la SNCF et chez Danone. Cet énarque de 43 ans est un camarade de promotion d'Emmanuel Macron. Sa nomination doit encore être confirmée par un décret présidentiel. Mathias Vichera va devoir tourner la page ouverte il y a bientôt un an maintenant avec les accusations d'inceste contre Olivier Duhamel. Ces révélations ont provoqué le départ du politologue de Frédéric Mion, l'ancien directeur de cet institut. La fin de l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, le préfet annonce des assouplissements à partir de dimanche prochain, un retour quasiment à la normale. Le couvre-feu ne sera donc plus d'actualité. Les tests de dépistage resteront gratuits jusqu'au début du mois de décembre. L'épidémie de Covid-19 qui repart très sérieusement à la hausse en Allemagne. Outre-Rhin, les autorités annoncent un nombre record de nouvelles infections, plus de 50 000 cas supplémentaires ces dernières 24 heures. Cette flambée est attribuée à un taux de vaccination relativement faible de la population. Plusieurs régions viennent de prendre d'ailleurs des mesures plus restrictives pour inciter les habitants à se faire vacciner. À suivre à 8h10 sur France Musique, le reportage de Clément Buzalka. On évoquera ici les opéras contemporains qui ont bien du mal à trouver leur place dans les programmes des scènes lyriques. C'est un peu comme vous, Jean-Baptiste Urbain. Vous avez du mal, semble-t-il, à trouver aujourd'hui une table ouverte à Marseille pour l'heure du déjeuner.
Eh ben écoutez, pour l'heure du déjeuner ou du dîner, alors on fait un appel si vous avez une idée de bonne table à Marseille, pas trop chère, hein, et surtout ouverte à 11 novembre. Écrivez-nous, nous en serons très reconnaissants. Vous dites tout, Olivier Doré. Ben écoutez, on vous racontera. À très bientôt. Rendez-vous demain. Vous restez à Paris, au
à
sec.
Demain.
Bonne journée. Musique Matin, deuxième heure. Chacun de ces disques est un événement sur son nouvel album. René Fleming chante la nature exaltée par les compositeurs d'hier et ceux d'aujourd'hui. Avec Yannick Nézet-Séguin au piano, la soprano américaine entend aussi alerter sur les dangers climatiques qui menacent aujourd'hui la Terre et sa biodiversité. Alors, pourquoi s'engager aujourd'hui, elle, l'artiste, dans ce combat? A-t-elle aussi définitivement renoncé à monter sur les scènes d'opéra? Quels sont ses prochains projets aux États-Unis comme en France? Rencontre avec une star de la lyrique amoureuse de Paris. René Fleming sera notre invité exceptionnel à 8h30. Et puis en ce 11 novembre, où l'on célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale, c'est une œuvre que Maurice Ravel a composée aux premières heures du conflit lorsqu'il était engagé volontaire, qui est au programme de Maxi Classique avec Max Dozolm. Rendez-vous à 8h20.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Le rustique, c'est chic. Ressortez vos vestes de chasse en coton huilé, vos bottes de pluie, vos velours côtelées ou encore vos mailles torsadées. Le Figaro l'affirme, le style campagne séduit au-delà des plus conservateurs. Selon la spécialiste mode du journal, ce matin, l'esthétique chasse et pêche n'a jamais été aussi tendance. Effet du confinement, du retour à la campagne, avance la journaliste. En tout cas, ce style automnal et réconfortant fait des émules en dehors des marques traditionnelles et se décline du luxe au fast fashion, cher à Olivier Denré. Allez, souvenir. C'était pendant des années l'émission préférée des chasseurs et des insomniaques. Histoire naturelle sur cette musique. Thank you. Extrait de Carmina Burana de Karl Orff avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Simon Rattel. Il est 8h10.
Musique Matin, le reportage.
Les opéras français tournent-ils le dos à la musique minimaliste? Une question qu'on peut se poser quand on voit que la grande majorité des maisons lyriques françaises ne programment pas ou très peu les pièces de Phil Glass, de Steve Reich ou encore de John Adams. Cette saison, et c'est inédit, l'opéra de Nice présente Akhenaton, un opéra de Phil Glass, un choix du nouveau directeur qui a séduit les artistes de la maison et le public qui se presse en ce moment pour y assister. C'est un reportage à Nice signé Clément Buzalka.
Cela fait maintenant plus d'un an que les musiciens et chanteurs de l'Opéra de Nice travaillent sur la pièce. Si Akhenaten a été victime d'un report l'an dernier dû au confinement, cet opéra de Philip Glass a surtout été très peu donné en France, une seule fois avant Nice en 2002 à l'Opéra National du Rhin. Et cette affiche peu conventionnelle a demandé plus de travail à Léo Varinsky, le directeur musical.
Il y a une difficulté qui est posée par la musique elle-même, qui est l'air simple en apparence. On appelle ça la musique minimaliste et en fait elle est très difficile à bien réaliser parce qu'il faut qu'on trouve dans cette musique-là une forme de naturel, et ce naturel ne s'obtient qu'après de longues et de longues répétitions et beaucoup d'imprégnation de cette musique. Et c'est peut-être ça aussi qui peut décourager, puisque c'est une œuvre qui n'est pas dans l'ADN de la plupart de nos orchestres français. Donc le temps d'atteindre une interprétation idéale, eh bien ça demande vraiment beaucoup d'entraînement, de répétition et de courage.
Du temps et des moyens plus importants que d'ordinaire doivent donc être dégagés par l'opéra pour donner ce type de pièce et permettre à l'œuvre d'infuser chez les artistes, car la partition seule ne révèle pas tous ses secrets à la première lecture. Rendre cet opéra méconnu en France, pourtant très populaire aux États-Unis, le plus accessible à tous, c'est l'objectif de l'orchestre et des chanteurs. D'ailleurs, cette production vise notamment le jeune public peu initié à l'opéra.
C'était pas du tout un coup de com', hein. C'était plutôt un coup de cœur.
Bertrand Rossi, le directeur général de l'opéra de Nice Côte d'Azur, est par ailleurs grand fan de Philip Glass.
Je dis souvent qu'Akhenaten et Philip Glass est le précurseur de la musique électro. Voilà, on retrouve la musique répétitive et minimaliste dans la musique électro aujourd'hui. On entend cette musique dans les dance floors tous les jours. Donc je pense que c'est une musique pour eux. Et je sais qu'ils seront nombreux lors des représentations d'Akhenaten.
Une vraie porte d'entrée sur l'opéra, c'est ce que défend aussi Fabrice Di Falco, tenant du rôle d'Akhenaten dans cet opéra. Plus que sur son interprétation, qui est ici très sobre, le contre-ténor veut parier sur la langue de l'œuvre, l'égyptien ancien, pour faire la différence, marquer le spectacle et le transporter dans l'environnement de Nefertiti.
Peut-être que si on avait choisi l'italien, on se serait tous endormis très rapidement. Mais comme il a choisi une langue avec ce côté guttural, cette langue égyptienne ancienne, et puis aussi le fait que quand on voit les traductions qui sont extrêmement poétiques, tout est poésie, ben on rentre dans la peau d'un égyptien ancien et on doit transmettre, quand on est un artiste, interprète, on doit transmettre au public qu'une langue doit être comprise même si vous ne l'avez pas apprise. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter.
Beau pari dans cette maison où l'on privilégie d'habitude les Verdi et les Rossini que de donner un tout autre répertoire et pourquoi pas marquer le début d'une longue et fidèle relation entre les minimalistes et les opéras français. D'ailleurs, d'après nos informations, l'Opéra de Paris devrait programmer dans les prochaines saisons un opéra de Philip Glass pour la toute première fois.
Un reportage signé Clément Buzalka pour France Musique et Akhenaten de Philip Glass. C'est jusqu'au 16 novembre à l'Opéra de Nice. Le Philip Glass Ensemble qui est en tournée en ce moment en Europe. Son unique concert en France, il aura lieu lundi prochain, où ça, à Châteauroux, à l'Equinox. En 1984, cet ensemble enregistrait cette musique. De quoi s'agit-il? C'est la musique officielle des Jeux Olympiques de Los Angeles, signée Glass. Et oui, en 1984, le Comité international des Jeux Olympiques commandait à Phil Glass, Philip Glass, cette musique officielle pour les Jeux Olympiques, interprétée par le Phil Glass Ensemble. Il est 8h17.
Oh.
la fin triomphale, heureuse du Jules César en Égypte de Handel, Nathalie Dessay en Cléopâtre, Sonia Prina et César. C'était le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm, l'ensemble qui fête ses 20 ans demain soir à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un concert de gala pour lequel il reste quelques petites places, un concert que France Musique enregistrera, concert gala au bénéfice de l'Institut du Cerveau. Il est 8h23, l'heure de Maxi Classique avec Max Dosolm. Bonjour Max.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, 11 novembre, c'est l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.
Et cela m'a donné envie de vous parler d'une œuvre écrite juste avant que l'Europe ne s'écroule, un certain trio en la mineur. Cheveux et sourcils bruns, yeux bruns, front haut, nez long, bouche petite, menton rond, visage ovale. Taille 1m61, poids 45 kg, né le 7 mars 1875 à Cibourg, canton de Saint-Jean-de-Luz. Nom Ravel, prénom Maurice, décision du conseil militaire en ce 17 mai 1895, exempté de l'armée, motif faiblesse. Cette formule lapidaire inscrite sur sa fiche matricule est une gifle pour Maurice Ravel. En 1895 déjà, son physique chétif et sa mauvaise santé lui avaient empêché d'effectuer son service militaire à 20 ans. Mais lorsque quelques années plus tard, le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, Maurice Ravel retente sa chance. Bien qu'il ne soit pas nationaliste ou germanophobe, il veut s'engager corps et âme pour aider les jeunes militaires. Mais avant cela, il se dépêche de terminer une œuvre qui pourrait bien être sa dernière. Un trio pour que l'on se souvienne de ce qu'il était et de ce qu'il aimait, comme ces rythmes basques, entendus depuis l'enfance et qui ouvrent son œuvre. Maurice Ravel s'engage dans la Grande Guerre dès septembre 1914. Il s'occupe des soldats blessés dans un hôpital de Saint-Jean-de-Luz. Puis, en mars 1915, il tente de rejoindre l'armée de l'air en se disant que sa constitution légère pourrait être un avantage. Mais l'armée ne veut toujours pas de lui, jusqu'à ce qu'il obtienne finalement un poste de chauffeur dans le 13e régiment d'artillerie. Il faut imaginer Ravel au volant de son camion surnommé Adélaïde. Il transporte des canons sous les étoiles et les ronflements du moteur lui rappellent le thème majestueux d'une passacaille, le troisième mouvement de son trio. Une phrase musicale jouée par le piano. Puis le violoncelle, puis le violon, qui s'étire à l'infini et qui se perd dans la nuit. Comme dans le film Birdman d'Alejandro González Iñárritu. Sur la passacaille du trio de Ravel, le réalisateur filme un comédien qui déclame dans l'obscurité une célèbre réplique de Macbeth, de Shakespeare.
It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing!
Une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie et qui ne signifie rien. La réplique de Macbeth, le trio de Ravel, réunis comme deux portraits désolés de la Grande Guerre.
Maxi Classique, Max Dosolm tous les jours, du lundi au vendredi sur France Musique à 8h20. Le trio de Maurice Ravel, dans lequel baigne aussi Un cœur en hiver, le film de Claude Sauté avec Emmanuel Béard et Daniel Auteuil. Autre film, autre registre en ce 11 novembre. Et si vous restiez au lit pour regarder Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert avec Philippe Noiret, Marlène Jobert et Jean Carmet, c'est à 13h35 sur Arte, sur cette musique de Vladimir Cosma. des rêveries d'Alexandre, musique de Vladimir Kosma pour le film Alexandre le Bienheureux à 13h35 aujourd'hui sur Arte. Bienheureux auditeurs, vous avez rendez-vous à 9h avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste, j'ai une voix de contre-ténor et je fais de la breakdance. Je suis...
Yacoub.
Et oui, Yacoub Orlinski, c'est lui qui va ouvrir notre émission avec son troisième disque en solo, magnifique disque autour de l'âme éternelle. Qu'est-ce qui va plus loin que la musique sacrée ? Âme sacrée, c'était son disque précédent. Eh bien, c'est cette âme éternelle qui est pour lui l'âme de la nature. Et c'est ainsi que nous allons ouvrir cette émission.
Et la breakdance, ce sera pour demain. Merci Rodolphe.
Oui, un autre jour.
À tout à l'heure. À tout à l'heure à 9h. Merci d'écouter France Musique. Il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Certains l'ont surnommé la diva du peuple tant son aura, sa notoriété dépasse le monde des mélomanes. Ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une immense chanteuse américaine, Renée Fleming. Bonjour, good morning.
Bonjour.
De retour en France, de retour à Paris, avec un nouveau disque, Voice of Nature, The Anthropocene, avec Yannick Nézet-Séguin au piano. Renée Fleming. Quand les musiciens étrangers viennent ici au micro, ils disent qu'ils adorent la France, que Paris est évidemment leur ville préférée. Mais dans votre cas, j'ai l'impression que c'est vrai.
It's definitely true.
Oui, c'est tout à fait exact.
I absolutely love Paris.
J'adore Paris.
I've spent a lot of time
et j'ai passé beaucoup de temps ici. Mais cela fait longtemps que je ne suis venue. Et j'étais très triste. Alors j'en profite et je fais tout ce que je peux ces jours-ci.
Vous avez un vrai public ici en France qui a toujours bien accueilli le répertoire très varié que vous lui proposez. Est-ce que ce public, il est différent, par exemple, du public américain ?
J'en ai sûr, parce que le public ici est très habitué à la musique classique. C'est très populaire ici. Je dis toujours que Paris est la ville d'opéra, parce qu'il y a 5 théâtres d'opéra et ils sont tout pleins, tout le jour. Et ça n'existe pas chez nous.
C'est un peu votre deuxième maison ?
Oui. Exactement.
On m'a dit qu'en ce moment, vous tournez d'ailleurs un film documentaire qui vous est consacré, vous, votre lien entre la France et Paris, sans trop dévoiler. Comment ça a été imaginé ?
J'ai voulu commencer à Paris parce que j'adore l'opéra et c'est très populaire. Et c'est pour le public qui ne connaît peut-être pas très bien l'opéra. Et c'était avec Alexandre Duhamel et Axel Fagnot, le jeune française, soprano française qui est formidable, et Piotr Bechawa, un collègue très amitié de moi.
Qu'on verra au cinéma dans quelques mois. Renée Fleming est notre invitée ce matin sur France Musique. Elle parle en français, elle chante aussi en français, elle chante Gabriel Fauré. Les Berceaux, Gabriel Fauré sur un texte de Sully Prudhomme. René Fleming avec Yannick Nézet-Séguin au piano. C'est un nouveau disque qui est sorti chez Decca, Voice of Nature, The Anthropocene. René Fleming, notre invité ce matin. René Fleming, vous avez souvent déclaré que le français était la langue dans laquelle vous vous sentez le mieux. Pourquoi ?
Je peux chanter bien en français, ça me passe très bien, c'est fluide, c'est legato, il y a un legato très, très fort et les nasales m'aident beaucoup quand je chante.
Les nasales ?
Oui.
Et ici, dans les berceaux, comment vous vous sentez quand vous chantez en français dans cette mélodie ?
J'adore cette chanson. Et j'ai visité Nantucket, c'est l'île la plus ouest dans les États-Unis, il y a I was really taken by the story of the women who were left on the island.
L'histoire de ces femmes qui ont été abandonnées en fait sur cette île et qui n'ont jamais su quand rentrerait leur mari.
It's the perfect example.
C'est vraiment, à mon sens, un exemple parfait qui montre à quel point la musique peut mettre en valeur un poème et le rendre beaucoup plus compréhensible à celui qui écoute cette musique. On sent le bateau qui vogue, on sent aussi le berceau qui est bercé, et on retrouve ça, toute cette expérience du poème dans la musique.
Comment ce disque récital avec Yannick Nézet-Séguin est-il né?
It was an idea to do something during the pandemic.
L'idée est venue de créer quelque chose lors de la pandémie. Et avec un orchestre, c'était impossible. Et c'était bien au tout début de la pandémie, au début de 2020.
Yannick
a eu des problèmes parce que le problème était qu'il vit au Canada. Donc il était loin. Mais nous avons pu, en fait, enregistré à Philadelphie. Et puis nous avons revu le répertoire. Et puis moi, j'avais cette idée de marier les morceaux, les pièces qui nous plaisent le plus du XXe siècle, qui parlent de la nature, et notre relation actuelle avec la nature, qui n'est pas aussi idyllique, je dirais, avec en fait des œuvres interprétées pour la première fois. Et donc avec des compositeurs très, très nouveaux, avec Karen Sharp, qui est très, très populaire à l'heure actuelle. Et quelqu'un avec beaucoup de talent. Donc, nous avons sorti une chanson streaming, a stream song de Jackson Brown, avec toutes ces personnes.
D'ailleurs, ce confinement, vous-même, comment l'avez-vous vécu, René Fleming ?
Pendant les premiers mois, c'était fantastique parce que je ne suis jamais à la maison. Mais après, c'est devenu quelque chose qui produisait une très forte anxiété. Et en fait, c'est pour ça que je me suis sentie beaucoup plus proche de la nature parce que j'ai beaucoup de randonnées, je me suis baladée dans la forêt, j'ai écouté beaucoup de musique et j'ai compris à quel point nous devons retrouver cette relation avec la nature. Et maintenant, je suis très heureuse de travailler à nouveau.
Il y a dans ce disque ce rapport que les compositeurs entretenaient et entretiennent avec la nature. Un disque qui met donc en lumière aussi la beauté de la nature en danger. C'est aussi un disque avec une vocation politique.
C'est exactement ça et je suis tout à fait convaincue que nous devons agir rapidement. Nos pays, en fait, sont tous divisés, n'arrivent pas à prendre les choses en main. Et je pense qu'il est essentiel que nous réagissions vite et que nous trouvions une solution à ce changement climatique. Et on ne peut plus maintenant renier ce changement climatique. Et rien que les événements atmosphériques et les catastrophes que nous avons pu vivre l'année dernière en sont la preuve.
Et que peut un artiste, que peut une artiste comme vous sur ces questions-là ?
I don't know. I mean, you know, we have to use any influence we have.
En fait, je ne sais pas trop, mais une chose est sûre, c'est que nous pouvons utiliser cette influence et ce pouvoir que nous avons. Moi, je peux travailler avec le public m'écoute. Et puis, je crois que nous devons tous, à notre façon, essayer d'agir pour que les choses changent et bougent. Je travaille surtout avec les neurosciences et la musique. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse et c'est mon objectif. Et je me suis plongée dans ce sujet.
Non, vous ne rêvez pas. René Fleming est notre invité ce matin sur France Musique. Un rêve, ein Traum, voici Edvard Grieg.
Mir träumte einst ein
Edvard Grieg, Ein Traum, René Fleming et Yannick Nézet-Séguin, extrait de ce nouveau disque Voice of Nature, The Anthropocene, l'Anthropocène, paru chez Decca. René Fleming, on vous entend ici avec Yannick Nézet-Séguin au piano. Quel accompagnateur est-il, lui, le grand, le célèbre chef d'orchestre ?
Je trouve qu'il a une interprétation, un jeu tellement magnifique.
Pendant la pandémie, à jouer le piano. Tous les jours, c'était un art confort pour lui, il m'a dit. And he plays fabulously.
Et il joue tellement bien.
Vous avez déjà chanté tous ces leaders, ces mélodies, en tout cas pour ceux du répertoire qui sont sur ce disque, vous avez encore fait des découvertes?
Oui, oui, il y a des découvertes. The shows de Kevin Putz, par exemple, c'est intéressant parce que Yannick et moi va faire une première au Metropolitan Opera l'année prochaine, en novembre. C'est une nouvelle opéra, The Hours, et Kevin Putz est le composer. So c'était naturel à demander à Kevin pour quelque chose de petit et nouvelle sur ce thème. And Nico, c'est un ami de moi et de Yannick, naturellement. Et il a écrit quelque chose de nouvel. Et la chose de Caroline était déjà faite. Mais c'était vraiment un process incroyable de travailler avec Yannick sur ce répertoire.
Kevin Putz, Nico Moly et Caroline Shaw sont les trois compositeurs vivants qui sont au début, au milieu et à la fin de ce disque. René Fleming, vous sentez que les lignes bougent sur la musique contemporaine, sur la musique vivante?
J'adore la musique contemporaine, toujours, depuis toujours. J'ai fait beaucoup, beaucoup. Et pour moi, ça me fait beaucoup de plaisir de travailler avec un compositeur qui vit. C'est simplement ça. On peut discuter, on peut parler. C'est fait pour ma voix exactement. Et ça fait une grande différence.
Vous pensez que pour que l'opéra continue à vivre, et pour qu'il s'ouvre à un nouveau public plus large, il faut aussi qu'il s'ouvre davantage à la musique d'aujourd'hui?
Absolument, absolument. C'est très important. Et il y a un public maintenant pour la musique nouvelle. Chez nous, surtout, ils sont les pièces de temps en temps qui ne sont pas très très grands, avec un grand orchestre, mais on veut quelque chose qui est relevant de notre thème d'aujourd'hui.
Vous savez qu'on a, par exemple, on n'a jamais vu d'opéra de John Adams à l'Opéra de Paris encore aujourd'hui, ça vous étonne?
Ah, that has to change.
Ça va changer?
Je pense qu'Alexandre Neef a une idée.
Le nouveau directeur de l'Opéra de Paris. On va écouter la musique de Caroline Shaw, cette compositrice, jeune compositrice new-yorkaise. Qu'est-ce qui vous touche dans sa musique?
J'adore sa musique. Et elle a travaillé aussi avec Kanye West, par exemple. Elle travaille avec tout le monde. Et she thinks out of the box.
Elle est vraiment hors norme. Elle est très très créative.
Yeah, and she doesn't follow. She
et ensuite, leads. Elle n'est pas des gens qui suivent. C'est elle qui mène la route.
Ça s'appelle Aurora Borealis. René Fleming, notre invité ce matin, avec Yannick Nézet-Séguin au piano. Le début d'Aurora Borealis de Caroline Shaw, une musique qui clôt d'ailleurs ce disque Voice of Nature, The Anthropocene. René Fleming, notre invité ce matin avec Yannick Nézet-Séguin. En écoutant cette musique, René Fleming, vous faisiez la réflexion, il y a quand même de plus en plus de compositrices qu'on entend, qu'on joue, qu'on enregistre, enfin.
Oui, exactly. There are so many new composers.
Il y a tellement de nouvelles compositrices, tellement de nouvelles femmes sur la scène. Et nous avons pu assister au premier concert d'une compositrice noire américaine. Et c'était la première fois au Met. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres compositrices qui sont prêtes à être révélées.
Vous venez d'être nommée conseillère en charge des projets spéciaux au Los Angeles Opera. Vous êtes aussi conseillère à l'Opéra de Chicago. Comment vous envisagez ces rôles de conseil ?
Je remplis cet Kennedy Center et c'est vrai que je suis aussi quelqu'un qui aide les gens à trouver leur voie. Au sein de l'Opéra de Los Angeles, il y a beaucoup de partenariats de ce type et c'est vrai que j'essaierai d'y aller une fois par an pour vraiment défendre ce travail et encourager ce travail avec des scientifiques qui travaillent au niveau de la santé et les différents réseaux artistiques de façon à pouvoir soulager les gens à travers l'art, la musique. Et c'est vrai que c'est très beau ce qu'il fait. Et puis il y a d'autres projets extrêmement intéressants sur lesquels je travaille. Je chante les lettres de O'Keeffe, de la peintre Georgia O'Keeffe. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs l'exposition au musée Pompidou, mais je l'ai vue.
Vous pourriez, René Fleming, diriger un opéra, ça vous tenterait la direction artistique, choisir quels opéras programmer, choisir le cast, la distribution?
Non, c'est beaucoup trop dur. C'est un emploi et c'est un poste extrêmement difficile. Alors déjà, aux États-Unis, rien que financièrement, c'est très difficile puisqu'il faut trouver les aides. Et vous savez, c'est une des formes artistiques les plus chères, l'opéra, et de loin. Nous n'avons absolument pas d'aide publique. Et ce sont les gens qui mettent la main à la poche à hauteur de 60% des coûts.
La situation est toujours très difficile pour certains artistes lyriques et classiques américains aujourd'hui.
Je dirais que ça va mieux. Il y a des gens avec beaucoup de talent. À mon sens, le public est ravi de revenir dans les salles, enfin j'espère, mais il n'y a pas autant de travail qu'il y en avait avant. Et puis, le travail n'est pas aussi périlleux. C'est-à-dire qu'on n'entend pas des pièces peu connues. Mais comme j'ai dit, j'espère que beaucoup de nouvelles œuvres qui sont présentées sont des œuvres solides.
Et la mise en scène, alors vous deviez mettre en scène Così fin tutte de Mozart à Washington cette saison. Ça n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que l'on sait. Est-ce que ça va se faire quand même plus tard ?
On en reparlera plus tard, on fera quelque chose. Ce qui est amusant, c'est que je m'étais lancée parce que je voulais être proche de chez moi. Et finalement, oui, j'ai été exaucée, mais je suis restée beaucoup plus de mois chez moi.
René Fleming, vous avez fait vos adieux à la scène il y a quelques années. Est-ce que vous avez vraiment tiré un trait ?
Non, what I said was, this has been so confused, unfortunately.
C'est triste. En fait, j'ai dit que je voulais dire au revoir à ces rôles, à tous ces rôles de jeune femme. Tout ça, c'est un adieu. C'est pourquoi je reprends The Hours au Met. L'année prochaine. Mais j'adore les tournées. C'est ce que je préfère. Avec un orchestre ou avec un pianiste qui m'accompagne.
Donc,
il y a un opéra qui s'approche, mais n'en parlons pas.
C'est un secret. It's a secret. Et la comédie musicale, alors vous avez enregistré un magnifique disque de comédie musicale il y a quelques années. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver prochainement à Broadway ? Vous pourriez prendre des cours d'ailleurs avec votre sœur qui enseigne comment maîtriser la voix dans la comédie musicale.
Alors, il n'y a pas beaucoup de rôles pour des sopranos ou des chanteurs lyriques à Broadway, mais c'est vrai que j'ai adoré cette expérience. J'ai beaucoup aimé me plonger dans ce monde pendant un an, mais c'est vrai que ce n'est pas dans mes projets, dans mes idées. J'ai tellement de choses à faire et prévues.
Dans un autre registre, vous avez chanté Messiaen avec l'orchestre de la NDR dirigé par Alan Gilbert à Paris, à Lyon, diffusé prochainement sur France Musique en novembre. Pour vous, cette musique-là, poème pour mi de Messiaen, c'est encore de la musique contemporaine ou c'est entré dans le répertoire ?
Messiaen pour moi is of today.
Messiaen pour moi est quelqu'un de très contemporain. C'est une musique très actuelle, facile à écouter parce qu'il y a tellement de lumière, tellement de beauté qui s'exprime par cette musique. Et les gens y sont très ouverts. Il y a d'autres compositeurs qui ont leur époque et qui vraiment prennent toute leur envergure beaucoup plus tard. Même du Tilleux qui a eu beaucoup de succès à la fin de sa carrière. Et je crois que Messiaen est quelqu'un de facile et en plus tellement beau.
On se quitte avec Stephen Sondheim, The Glamorous Life. On était avec The Glamorous René Fleming ce matin. Un disque, Voice of Nature, disque récital avec Yannick Nézet-Séguin. Merci René Fleming. À bientôt en France.
Thank you, à bientôt.
Ordinary mothers lead ordinary lives. Keep the house and sweep the parlor, cook the meals and look exhausted. Ordinary mothers like ordinary wives. Fry the eggs and dry the sheets and try to deal with facts. Darling, I miss you a lot, but darling, this has to be short. And mother is getting a plaque from the Housing Mortgage Council Amateur Theatre Group. Whether it's funny or not, I'll give you a full report the minute they carry me back from the Housing Mortgage Council Amateur Theatre Group. Love you. Unpack the luggage down. The luggage, la la la. Unpack the luggage, la la la. I hold the glamorous life. I send the basin, la la la. Racks in the plaster, la la la. Mics in the hallway, la la la. I hold the glamorous life. Rent for the carriage, la la la. Wolf down the sandwich, la la la. Which town is this one, la la la? I hold the glamorous life.
daughters, ameliorate the lot. Use the charms and choose the futures. Breed the children, heed the mothers. Ordinary daughters, which sadly I am not. Tend each asset, spend it wisely while it still endures. I, too. Mother, forgive the delay. My schedule is driving me wild. But, Mother, I really must run. I'm performing in Broadway. And don't ask where is it, please. How are you feeling today? And are you corrupting the child? Don't, Mother, the minute I'm done. With performing in Broadway, I'll come for a visit and argue. May yours with speeches, la, la, la. Children with posies, la, la, la. Half empty houses, la, la, la. I owe the glamorous life. Cultural lunches, la, la, la. The floral tributes, la, la, la. Ancient admirers, la, la, la. I owe the glamorous life. Pack up the luggage, la, la, la. Unpack the luggage, la, la, la. Mother surviving, la, la, la. Leading the glamorous life. Cracks in the plaster, la, la, la. Youngish admirers, la, la, la. Which one was that one, la, la, la. I hold the glamorous life. Ring up the curtain, la, la, la. Ring up the curtain, la, la, la. Ring up the curtain, la, la, la.
La divine Renée Fleming, The Glamorous Life, extraite de Little Night Music, la comédie musicale de Stephen Sondheim avec l'orchestre de concert de la BBC dirigé par Bob Fischer. Grande soirée, Renée Fleming, lundi soir sur France Musique à 20h avec Clément Rochefort et notamment le concert que nous avons enregistré le mois dernier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Demain, nous serons en direct de Marseille, comme beaucoup d'émissions de France Musique tout le week-end, au conservatoire Pierre Barbizet, dont on célèbre le bicentenaire. Et vous êtes d'ailleurs les bienvenus pour venir, pour se rencontrer, puisque l'émission sera en public. À la technique ce matin, Stéphane Poitvin et YouTube Diego Aclopez. À la production de cette émission, Marion Guillemet, Flora Sternadel et Pierre Matignon. Et à la réalisation, Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu, la voix mystère, c'était celle ce matin d'Isabelle qui a les yeux bleus, Isabelle Adjani. Bonjour Émilie Munera, bonjour Rodolphe Bruno-Boulmier.
Bonjour Jean-Baptiste.
Quel cœur.
Oui, on vient avec vous à Marseille.
Ah bon?
Oui, on vous avait pas dit.
Vous avez des parapluies?
On vous fait une surprise.
Oh, mais si il se met à pleuvoir dans le sud, où va-t-on? Brahms, avec la suite de l'intégrale Brahms de Geoffroy Couteau. Aujourd'hui, nous serons du côté des sonates pour violon.
Superbe, superbe album, à demain!
À demain, Jean-Baptiste!
À réécouter sur francemusique.fr.